From the conference center at Temple...
Ici le centre de conférence d'Apple Square à Salt Lake City. Vous assistez à la 178e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales, les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session est interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Communications. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.
Thomas S. Monson,
président de l'Église, dirigera cette session.
Nous
vous souhaitons la bienvenue ce matin à la quatrième session de la 178e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous saluons toutes les personnes qui suivent cette session et nous remercions tous les propriétaires et tous les exploitants de réseaux de diffusion qui transmettent cette conférence. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle sous la direction de Mac Wilberg avec Andrew Unsworth et Clay Christensen à l'orgue. Le chœur a ouvert cette session en chantant « Vivons ce bonheur ». Il va maintenant nous interpréter « Je sais qu'il vit mon Rédempteur ». Earl Sittinge, qui a été relevé hier des 70, le président des 70, fera la prière d'ouverture. Il a servi pendant de nombreuses années.
Our beloved Father in heaven,
notre Père céleste bien-aimé, par ce beau jour de sabbat, ce matin, rassemblés dans le centre de conférence à Salt Lake City et dans des centaines de foyers et de chapelles à travers le monde pour participer à cette quatrième session de la grande conférence générale de ton Église, à savoir l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Nous sommes reconnaissants pour ton Fils bien-aimé, notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ, et pour son sacrifice qu'il a accompli en notre faveur, et de ce qu'il révèle sa volonté par un prophète vivant, oui même le président Thomas Monson, comme nous l'aimons, comme nous aimons ses conseillers, et nous prions que tes bénédictions de choix soient sur eux, et sur les membres des douze, et sur les dirigeants de la prêtrise et des auxiliaires à travers le monde. Père Saint, nos membres vivent dans nos nombreux pays, dans des missions et districts. Ce sont des époques difficiles, et nous prions humblement que ton esprit repose sur les dirigeants des pays, afin que les hommes de bonne volonté puissent, à travers leur façon de diriger, pourvoir à la stabilité et au leadership des pays, afin que notre responsabilité d'annoncer le rétablissement au monde entier puisse s'accomplir. Nous te prions, Père Saint, maintenant, alors que nous assistons à cette belle session, que ceux qui participent puissent par les paroles et les cantiques qui vont être donnés puissent être édifiés par les messages et enseignés. Nous te prions que ces nombreuses bénédictions viennent sur nous au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Oh,
Le chœur vient de chanter « Oh, what song of the heart ». Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre Henry B. Haring, premier conseiller dans la première présidence. Nous entendrons ensuite Robert D. Hales du Collège des Douze Apôtres. Il sera suivi par Keith B. McMullen de l'Épiscopat président. Le chœur et l'assemblée chanteront ensuite « Hosanna au grand roi ». Après ce chant, nous entendrons Hélène S. Dalton, présidente générale des jeunes filles, et elle sera suivie par le chœur qui chantera « Je ressens son amour ». M. Russell Ballard, du Collège des Douze Apôtres, nous donnera ensuite la parole. Frère Haring.
Mes chers frères et sœurs bien-aimés, quelle joie d'être réunis avec vous en ce matin du jour de sabbat. Nous vivons dans des milieux différents. Nous entrons dans le royaume de Dieu venant de toutes les nations et de nombreux groupes ethniques. Et ce rassemblement prophétisé va s'accélérer. Nous voyons une recrudescence de conflits entre les peuples du monde qui nous entourent. Ces divisions et ces différends risquent de nous contaminer. C'est pour cette raison que mon message d'espoir d'aujourd'hui est qu'un grand jour d'unité va arriver. Le Seigneur, Jéhovah, reviendra vivre avec ceux qui sont devenus son peuple et le trouvera uni, d'un seul cœur, réuni à lui et à notre Père céleste. Vous m'avez entendu plus d'une fois déclarer ce message d'unité. Il se peut que j'en parle encore à l'avenir. J'ai entendu chaque prophète de Dieu en parler pendant ma vie. Le dernier message de David O'Mackay que je me rappelle avoir lu était un plaidoyer en faveur de l'unité. Les prophètes du Seigneur ont toujours appelé à l'unité. Les jours qui viennent pendant lesquels notre peuple se préparera à sa destinée glorieuse. Nos messages touchent à ce don qui nous a accordé la difficulté de le garder. Mon message est que nous faisions mieux. Les pères et les mères prient pour avoir de l'unité dans leur foyer et ces prières sont en train d'être exaucées. Les familles prient ensemble soir et matin. On m'a demandé de m'agenouiller au moment du coucher avec une famille chez qui je me trouvais en tant qu'invité. On a demandé au plus jeune enfant de faire la prière. Il a prié comme un patriarche pour chaque membre de la famille, en le mentionnant par son nom. Je confesse avoir ouvert les yeux un instant pour voir le visage des autres enfants et des parents. J'ai pu voir qu'ils unissaient foi et cœur à la prière de ce petit garçon. Récemment, des sœurs de la société de secours priaient ensemble pour se préparer à rendre visite à une jeune veuve dont le mari était décédé soudainement. Elles voulaient savoir ce qu'elles devaient faire et comment travailler ensemble pour aider à préparer la maison pour la famille et les amis qui allaient venir pour le service funèbre. Elles voulaient savoir quel mot de réconfort prononcer au nom du Seigneur. Elles ont reçu une réponse à leur prière. Quand elles sont arrivées à la maison, chaque sœur s'est mise à faire une tâche. La maison était prête si rapidement que des sœurs regrettaient de ne pas avoir pu faire davantage. Les paroles de réconfort qui ont été dites étaient exactement celles qu'il fallait. Ces sœurs avaient rendu le service du Seigneur ensemble, leur cœur a lancé dans l'unité. Comme moi, vous avez vu des preuves que nous nous rapprochons de l'unité. Le miracle de l'unité nous est accordé maintenant lorsque nous prions et travaillons pour l'avoir à la manière du Sauveur. Nous aurons les cœurs enlacés dans l'unité. Dieu a promis cette bénédiction à ses saints fidèles, quelles que soient leurs différences de milieu et quels que soient les conflits qui font rage autour d'eux. Il a prié pour nous, aussi bien que pour ses disciples, quand il a demandé « Père, que nous soyons un ». La raison pour laquelle nous prions et demandons cette bénédiction est la même que celle pour laquelle le Père nous exauce. Nous savons par expérience que la joie vient quand nous jouissons de la bénédiction de l'unité. Nous, enfants d'esprit, notre Père céleste, nous aspirons à cette joie que nous avons connue avec lui dans la vie antérieure. Il désire nous accorder ce don sacré de l'unité par amour pour nous. Il ne peut pas nous l'accorder individuellement. La joie de l'unité qu'il veut nous donner ne peut pas être vécue en solitaire. Nous devons la rechercher et nous qualifier pour la voir avec les autres. Il n'est donc pas étonnant que Dieu nous exhorte à nous réunir pour pouvoir nous bénir. Il veut que nous réunissions en famille. Il a établi des cours, des paroisses et des branches. Il nous a commandé de nous réunir souvent. Ces réunions que Dieu a prévues pour nous sont source de grandes possibilités. Nous pouvons prier et faire des efforts pour avoir l'unité qui nous apporte la joie et multiplie notre capacité de servir. Aux trois néphites, le Sauveur a promis que leur récompense ultime serait la joie d'être unis avec lui après leur service fidèle. Il a dit, « Vous aurez une plénitude de joie et vous vous assiérez dans le royaume de mon Père. Oui, votre joie sera pleine, tout comme le Père m'a donné une plénitude de joie. Et vous serez tout comme je suis, et je suis tout comme le Père. Et le Père et moi sommes un. » Le Seigneur nous a donné des guides pour savoir quoi faire pour recevoir la bénédiction et la joie de connaître une unité toujours plus grande. Le livre de Mormon fait le récit d'une période de réussite. C'était à l'époque d'Alma et des eaux de Mormon. Les actions du peuple en ces circonstances difficiles et dangereuses sont pour nous un guide et un encouragement. Tout ce qu'Alma et son peuple ont été inspirés de faire visait à aider le peuple à choisir d'avoir le cœur transformé par l'expiation de Jésus-Christ. C'est la seule manière dont Dieu ne peut accorder la bénédiction de l'unité. Dans Mosiah, nous lisons, « Ils furent appelés à partir de ce moment l'Église de Dieu ou l'Église du Christ. Il arriva que quiconque était baptisé par le pouvoir et l'autorité de Dieu était ajouté à son Église. Et il leur commanda de n'enseigner que les choses qu'il avait enseignées et qui avaient été dites par la bouche des saints prophètes. Oui, il leur commanda même de ne prêcher que le repentir et la foi au Seigneur qui avait racheté son peuple. Et il leur commanda de ne pas avoir de querelle entre eux, mais de regarder d'un même œil vers l'avenir, ayant une seule foi et un seul baptême, et leur cœur étant enlacé dans l'unité et l'amour les uns vers les autres. Et c'est ainsi qu'il leur commanda de prêcher, et c'est ainsi qu'ils devinrent les enfants de Dieu. Voilà pourquoi Alma a commandé au peuple d'enseigner la foi et le repentir. Voilà pourquoi mes enfants en sont arrivés à attendre à chaque leçon de soirée familiale que je trouve le moyen d'amener quelqu'un à témoigner du Sauveur et de sa mission. C'était parfois nous, parents, de le faire. Mais les meilleures soirées, nous trouvions le moyen de recommander à nos enfants de le faire, soit en donnant la leçon, soit en répondant à des questions. Le Saint-Esprit venait confirmer les témoignages du Sauveur qui étaient rendus. Ces soirs-là, nous sentions que nos cœurs étaient enlacés dans l'unité. En plus des ordonnances, les principes que notre peuple suit nous rendent plus unis. L'un d'eux est la révélation. Elle est le seul moyen de savoir comment suivre ensemble la volonté de Dieu. Il faut avoir la lumière d'en haut. Le Saint-Esprit témoigne au cœur des personnes réunies autour de nous ce qu'il veut que nous fassions. Et il vaut mieux garder ses commandements afin que tous nous ayons nos cœurs enlacés dans l'unité. L'humilité est un deuxième principe directeur de nos progrès pour devenir un. L'orgueil est le grand ennemi de l'unité. Vous avez vu et ressenti ses effets terribles. Il y a juste quelques jours, je regardais deux personnes commencer à avoir un léger désaccord. Au début, la discussion était de savoir ce qui était vrai, mais ils en sont venus à s'affronter pour voir qui avait raison. Le ton a monté progressivement. Les visages se sont un peu empourprés. Au lieu de parler du problème, les gens se sont mis à parler d'eux-mêmes pour prouver pourquoi leur point de vue avait plus de chances d'être le bon. Comme moi, vous auriez été inquiet. Nous avons vu les effets mortels de ce genre de conflit. Vous et moi, nous connaissons des gens qui ont quitté l'Assemblée des Saints pour avoir été blessés dans leur amour propre. Heureusement, je vois de plus en plus de gens doués pour apporter la paix, qui calme les esprits avant que le mal ne soit fait. Vous pourriez être celui qui procure cette paix, que vous fassiez partie des gens en conflit ou que vous soyez observateur. Une manière que je l'ai vu faire a été de rechercher un point faisant l'unanimité. Pour être ce type de conciliateur, nous devons avoir la foi simple que, en tant qu'enfants de Dieu, malgré toutes nos divergences, il est vraisemblable que, quand nous adoptons une position forte, il y aura des éléments de vérité. Le grand faiseur de paix, celui qui réunifie, c'est celui qui trouve le moyen d'aider les gens à voir la vérité qui leur est commune. Cette vérité commune est toujours plus grande et plus importante pour eux que leur point de divergence. Vous pouvez vous aider vous-même et aider les autres à avoir ce terrain d'entente si vous demandez à Dieu de vous aider et ensuite passez à l'action. Il répondra à votre prière pour aider à rétablir la paix comme il a répondu à la mienne. Ce même principe s'applique quand on crée l'unité entre des gens de milieux très différents. Les enfants de Dieu ont toujours plus de points communs que de points de divergence. Et même ces points de divergence peuvent être considérés comme un atout. Dieu nous aidera à voir une différence chez quelqu'un, non pas comme une source d'irritation, mais comme une solution. Le Seigneur peut vous aider à voir et à apprécier ce que l'autre apporte et qui vous manque. Plus d'une fois, le Seigneur m'a aidé à voir sa bonté en me permettant d'être associé à quelqu'un dont la seule différence d'avec moi était juste l'aide nécessaire. C'est de cette manière que le Seigneur ajoute quelque chose qui me manquait pour mieux le servir. Cela nous amène à un autre principe d'unité. C'est de dire du bien les uns des autres. Pensez la dernière fois, on vous l'a demandé ce que vous pensez de ce que fait un membre de votre famille ou de l'Église. Cela m'est arrivé la semaine dernière. Mais il y a des fois où nous devons juger les autres. Nous sommes parfois obligés d'exprimer un tel jugement. Mais le plus souvent, nous pouvons choisir. Par exemple, imaginez que l'on vous demande ce que vous pensez du nouvel évêque. À mesure que nous améliorons notre capacité de créer l'unité, nous penserons à un passage d'Écriture en entendant cette question. Et maintenant, mes frères, étant donné que vous connaissez la lumière par laquelle vous pouvez juger, laquelle a la lumière de Christ, veillez à ne pas juger à tort, car de ce même jugement dont vous jugez, vous serez aussi jugés. Quand on sait que l'on voit les autres sous un jour imparfait, on a tendance à parler avec générosité dans ce que l'on dit. De plus, peut-être que vous entendrez et vous vous rappelez votre mère dire, lorsque on vous demande quelque chose sur quelqu'un, de ne rien dire. Cela vous aidera à chercher ce qu'il y a de mieux dans les accomplissements et la personnalité de l'évêque. Le Sauveur, en juge plein d'amour, fera sûrement ainsi quand il jugera vos accomplissements. Les Écritures et ce que vous a entendu votre mère dire peuvent très bien vous amener à décrire ce qu'il y a de mieux dans les réalisations de votre évêque et ses bonnes intentions. Je peux vous promettre que vous ressentirez la joie et la paix quand vous parlerez généreusement des autres dans l'optique du Christ. Vous vous sentez uni à cet évêque et à la personne qui vous a demandé votre avis, non pas parce que l'évêque est parfait ou parce que la personne qui vous l'a demandé partage votre avis généreux. Ce sera parce que le Seigneur vous fera sentir qu'il apprécie que vous ayez choisi la possibilité de ne pas semer de semences de discorde. Nous devons suivre ce même principe parce que le Seigneur rassemble de plus en plus de gens qui sont différents de nous. Ce qui nous deviendra plus évident, c'est que l'expiation nous apporte à tous les mêmes changements. Nous devenons des disciples doux de cœur, faciles à supplier et en même temps intrépides et fidèles en toutes choses. Nous habitons encore des pays différents, mais nous entrons dans l'Église par un processus qui nous change. Nous devenons, par les dons de l'Esprit, ce que Paul l'apôtre a vu. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Avec l'unité que je vois grandir, le Seigneur pourra accomplir ce que le monde considérera comme un miracle. Les saints peuvent accomplir n'importe quel objectif du Seigneur quand ils sont pleinement unis en justice. Des présidents de pays, des gouverneurs, des dirigeants d'organismes caritatifs du monde entier nous louent en ces termes. Votre Église a été la première sur le terrain pour apporter de l'aide quand la catastrophe est arrivée. Des centaines de vos membres sont arrivés en apportant avec eux tout ce dont les survivants avaient besoin. Ils ont même apporté leurs propres tentes et leurs propres provisions. Ils étaient infatigables et enthousiastes. Ils semblaient savoir où aller et quand. Alors vient une réflexion de ce genre. Votre Église sait s'organiser pour faire ce qu'il faut. Je les remercie, sans dire que le miracle n'est pas dans l'organisation seulement, mais dans le cœur des gens. Les saints sont venus au nom du Seigneur pour porter secours, comme il aurait fait. Ils sont venus en écoutant les directives des dirigeants que le Seigneur a choisis, parce que leur cœur était enlacé dans l'unité. Leurs forces ont été magnifiées. Je témoigne solennellement que l'unité que nous avons maintenant se développera. Dieu le Père vit. Il entend nos prières et y répond avec amour. Le Sauveur Jésus-Christ vit, ressuscité, glorieux, et nous tend la main avec miséricorde. Cette Église est sa véritable Église. Le président Monson est le prophète vivant de Dieu. Si nous sommes unis pour le soutenir de tout notre cœur, disposés à obéir à Dieu, nous pourrons davantage aller partout où le Seigneur veut que nous allions et devenir ce qu'il veut que nous soyons avec puissance. Je vous bénis pour que vous jouissiez de l'unité dans vos foyers et dans l'Église. Et je vous laisse et vous exprime la promesse du Seigneur que vous obtiendrez la réalisation du souhait juste de votre cœur. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
What a marvelous message to be taught.
Quel magnifique message notre frère a enseigné. Nous sommes rassemblés dans l'unité. Nous avons pris sur nous le nom du Christ et nous sommes chrétiens. Une question que nous poserions, pourquoi alors, si nous avons cet amour du Sauveur, quelqu'un veut-il nous attaquer? Récemment, un groupe de jeunes saints des derniers jours brillants a écrit pour poser les questions qui le préoccupaient le plus. Une des sœurs a demandé « Pourquoi l'Église ne se défend-elle pas plus activement lorsque les accusations sont portées contre elle ?» Pour répondre à sa question, je dirais que la mise en cause et la critique de nos croyances est l'une des plus grandes épreuves de la vie sur Terre. À ce moment-là, nous pouvons avoir envie de répondre d'une manière agressive, de monter sur nos grands chevaux. Mais ce sont des occasions importantes qui nous sont données de prendre le temps de réfléchir, de prier et de suivre l'exemple du Sauveur. Souvenez-vous que Jésus lui-même a été méprisé et rejeté par le monde. Et dans le rêve de Léhi, les personnes qui venaient au Sauveur devaient elles aussi supporter les moqueries et les doigts pointés sur elles. Jésus a dit, « Et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Mais lorsque nous répondons à nos accusateurs comme le Sauveur l'a fait, non seulement nous devenons plus semblables à lui, mais nous engageons les autres personnes à ressentir son amour et à le suivre aussi. Ce n'est pas en suivant un scénario, une formule toute faite, que l'on peut répondre à la manière du Christ. Le Sauveur a réagi différemment dans chaque situation. Lorsqu'il était mis en présence du méchant roi Hérode, il restait silencieux. Lorsqu'il était devant Pilate, il a rendu un témoignage simple et puissant de sa divinité et de la raison de sa venue sur terre. Lorsqu'il était face au changeur qui souillait le temple, il a exercé sa responsabilité divine de préserver et de protéger ce qui était sacré. Élevé sur la croix, il a prononcé les paraboles chrétiennes incomparables. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Certains pensent à tort que des réponses telles que le silence, la douceur, le pardon et un humble témoignage sont un signe de passivité ou de faiblesse. Mais aimer nos ennemis, bénir ceux qui nous maudissent, faire du bien à ceux qui nous haïssent et prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent, tout cela exige de la foi, de la force et surtout le courage d'un chrétien. Joseph Smith, le prophète, a fait preuve toute sa vie de ce genre de courage. Bien qu'il ait subi constamment de dures persécutions de la part de toutes sortes de gens, religieux, irréligieux, il n'avait jamais rendu l'appareil. Il ne s'est jamais laissé aller à la haine. Comme tous les vrais disciples du Christ, il a suivi l'exemple du Sauveur en montrant aux autres de l'amour, de la tolérance et de la compassion. C'est cela le courage en chrétien. Lorsque nous ne rendons pas l'appareil, lorsque nous tendons notre joue et résistons aux sentiments de colère, nous suivons aussi l'exemple du Sauveur. Nous manifestons son amour, qui est le seul pouvoir qui puisse apaiser l'adversaire, et nous répondons à nos accusateurs sans les accuser en retour. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est cela le courage d'un chrétien. Avec les années, nous apprenons que les contestations à l'égard de notre foi ne sont pas nouvelles et qu'elles ne vont pas disparaître de sitôt. Mais les vrais disciples du Christ voient des possibilités au milieu de l'opposition. Dans le livre de Mormon, le prophète Abinadi est lié et amené devant le méchant roi Noé. Malgré le fait que le roi s'oppose vigoureusement à lui, jusqu'à le condamner à mort, Abinadi va courageusement enseigner l'Évangile et rendre son témoignage. Parce qu'Abinadi a profité de l'occasion, un prêtre appelé Alma va être converti à l'Évangile et amener beaucoup d'âmes au Christ. Le courage d'Abinadi et d'Alma est un courage de chrétien. L'expérience prouve que les périodes de publicité négative au sujet de l'Église peuvent aider à réaliser les desseins du Seigneur. En 1983, la première présidence a écrit aux dirigeants de l'Église, je cite, « que l'opposition peut en elle-même devenir une occasion. Une difficulté continuellement rencontrée par nos missionnaires est le manque d'intérêt pour la religion et pour notre message. Ces critiques provoquent un intérêt pour l'Église. Elles donnent aux membres l'occasion de rétablir la vérité auprès des gens dont l'attention a été attirée vers l'Église. » Fin de citation. Et il y a de nombreuses façons de profiter de ces occasions. Une gentille lettre au rédacteur en chef d'un magazine, une conversation avec un ami, un commentaire sur un blog ou un mot rassurant adressé à quelqu'un qui a fait des commentaires désobligeants. Nous pouvons répondre avec amour aux personnes qui ont été influencées par une mauvaise information et par des préjugés, et qui ne sont empêchées d'accéder à la vérité que parce qu'elles ne savent pas où la trouver. Je vous assure que répondre aux accusateurs de cette façon n'est jamais de la faiblesse. C'est cela le courage d'un chrétien en action. Nous devons adapter nos réponses aux circonstances. Heureusement, le Seigneur connaît le cœur de nos accusateurs et sait comment nous pouvons leur répondre le plus efficacement. En recherchant l'aide de l'Esprit, les vrais disciples reçoivent une inspiration adaptée à chaque rencontre. Et à chaque rencontre, les vrais disciples répondent d'une façon qui attire l'Esprit du Seigneur. Paul rappelle aux Corinthiens que sa parole et sa prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Étant donné que ce pouvoir réside dans l'Esprit du Seigneur, nous ne devons jamais devenir agressifs lorsque nous parlons de notre foi. Comme presque tous les missionnaires l'apprennent, se lancer des citations de la Bible à la tête est le meilleur moyen de chasser l'esprit. Le Sauveur a dit, « Celui qui a l'esprit de querelle n'est pas de moi. » Il est encore plus regrettable pour un membre de l'Église de réagir à ce genre d'accusation d'une façon non chrétienne que pour l'Église d'être accusé de ne pas être une Église chrétienne. Nos conversations avec les autres doivent toujours être le résultat des fruits de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Selon la définition du dictionnaire Webster, être doux signifie faire preuve de patience dans les épreuves, supportant tout préjudice sans éprouver de ressentiment. La douceur n'est pas la faiblesse, c'est le symbole du courage d'un chrétien. Cela est particulièrement important dans nos relations avec les membres d'autres confessions chrétiennes. Notre Père Céleste est certainement attristé. Et le diable se réjouit lorsque nous débattons d'une façon agressive de nos différences doctrinales avec nos voisins chrétiens. Ça ne veut pas dire que nous devons faire des entorses à nos principes ou édulcorer nos croyances. Nous ne pouvons pas changer la doctrine de l'Évangile rétabli, même si le fait des enseigner et d'y obéir nous rend populaires aux yeux du monde. Cependant, même si nous savons que nous devons annoncer la parole de Dieu avec hardiesse, nous devons prier pour être remplis du Saint-Esprit. Nous ne devons jamais confondre la hardiesse avec la contrefaçon de Satan, l'arrogance. Un vrai disciple parle avec une assurance tranquille, pas avec un orgueil plein de suffisance. En tant que vrai disciple, notre souci principal doit être le bien-être des autres et non la volonté d'avoir raison. Les questions et les critiques nous donnent l'occasion de tendre la main aux autres et leur démontrer qu'ils sont importants aux yeux de notre Père Céleste et à nos yeux. Notre but doit être de les aider à comprendre la vérité, pas de défendre notre personne ou de marquer des points dans un débat théologique. Notre témoignage sincère est la réponse la plus puissante que nous puissions donner à nos accusateurs. Et un tel témoignage ne peut être rendu qu'avec amour et douceur. Nous devrions être comme Edward Partridge, dont le Seigneur a dit que son cœur est pur devant moi, car il est semblable au Nathaniel d'autrefois, dans lequel il n'y avait point de fraude. Ne pas avoir de fraude signifie être innocent comme un enfant, lent à la colère et prompt à pardonner. Ces qualités s'apprennent tout d'abord au foyer et dans la famille, et peuvent être mises en pratique dans toutes nos relations. Être sans fraude signifie rechercher d'abord notre propre faute. Lorsque nous sommes accusés, nous devrions nous poser la question que se posaient les apôtres du Sauveur. Seigneur, est-ce moi? Si nous sommes attentifs aux réponses données par l'Esprit, nous pouvons, si besoin est, corriger nos erreurs, présenter des excuses, demander pardon et faire mieux. En étant sans fraude, les vrais disciples évitent les jugements intempestifs à l'égard de l'opinion des autres. Beaucoup d'entre nous entretiennent de forts liens d'amitié avec des personnes qui ne sont pas membres de notre Église pour le moment, des camarades d'école, des collègues de travail, et des amis et voisins du monde entier. Nous avons besoin d'eux. Ils ont besoin de nous. Comme l'a dit Thomas S. Monson, apprenons à respecter les autres. Personne ne vit seul dans sa ville, dans son pays, dans le monde. Fin de citation. Comme le Sauveur l'a montré avec Hérode, quelquefois les vrais disciples doivent faire preuve du courage d'un chrétien en disant rien. Un jour, que je jouais au golf, j'ai frôlé un grand cactus chola, de ceux qui projettent leurs épines comme les porcs-épics. Les épines sont plantées dans tous mes vêtements, alors je l'avais à peine touché. Certaines situations sont comme cette plante. Elles ne peuvent que nous faire du mal. Dans tel cas, il vaut mieux garder nos distances et tout simplement nous éloigner. Quand nous faisons cela, certaines personnes essaieront peut-être de nous provoquer pour nous entraîner dans une polémique. Dans le Livre de Mormon, nous lisons l'histoire de Léonti et de ses hommes qui campent sur une montagne. Amalikia, le traître, incite Léonti à descendre de la montagne Elle rencontrait dans la vallée. Mais une fois descendu des hauteurs, Léonti se fait empoisonner peu à peu jusqu'à ce qu'il meure et que son armée tombe aux mains d'Amalikia. Il y a des gens qui, à coup d'arguments, d'accusations, cherchent à nous piéger pour que nous quittions les hauteurs, pour les rejoindre pour un pugilat théologique dans la boue. Être en terre insûre, c'est être là où la doctrine est pure. Donc nous voulons éviter ces pugilats théologiques. Ces quelques personnes querelleuses n'aiment rien tant que chercher la bagarre en matière de religion, que ce soit sur l'Internet ou en personne. Il vaut toujours mieux rester sur les hauteurs du respect mutuel et de l'amour. Ce faisant, nous suivons l'exemple du prophète Néhémie, qui avait bâti un mur autour de Jérusalem. Ses ennemis l'ont supplié de venir à la rencontre de la plaine, où ils avaient médité lui faire du mal. Cependant, contrairement à Léonti, Néhémie a sagement refusé leur offre en leur envoyant ce message. « J'ai un grand ouvrage à exécuter, et je ne puis descendre. Pourquoi l'ouvrage serait-il interrompu pendant que je le quitterai pour descendre vers vous ?» Fin de citation. Nous aussi avons un grand ouvrage à exécuter. Il ne se fera pas si nous permettons de nous arrêter pour nous quereller. Nous devons, au contraire, rassembler notre courage de chrétiens et aller de l'avant. Comme nous le lisons dans les psaumes, n'envie pas ceux qui commettent l'iniquité. Le mal sera toujours autour de nous dans ce monde. Les plus grandes épreuves de la condition mortelle est de vivre dans le monde sans devenir comme le monde. Dans sa prière sacerdotale, le Sauveur a demandé à notre Père Céleste, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Et quand le Sauveur a prévenu qu'il y aura des persécutions, il a également promis la paix. « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble point. » Elle ne s'alarme point. Je témoigne qu'avec la bénédiction de la paix sur nous, la promesse de la première présidence s'accomplira. L'opposition, qui semble difficile à supporter, se révélera être une bénédiction pour le royaume de Dieu sur la terre. À cette sœur qui se pose des questions et à tous ceux qui cherchent à savoir comment répondre à nos accusateurs, je réponds, nous les aimons. Quelle que soit leur race, leur croyance, leur credo, leur religion, leur conviction politique, si nous suivons le Christ et manifestons son courage, nous devons les aimer. Nous ne pensons pas être meilleurs qu'eux. Nous disons plutôt leur montrer un meilleur chemin, le chemin de Jésus-Christ, par notre amour. Son chemin conduit à la porte du baptême, au chemin étroit resserré d'une vie juste, qui nous guide jusqu'au temple de Dieu. Il est, lui, le chemin, la vérité et la vie. C'est par lui seulement que nous et tous nos frères et sœurs hériterons du plus grand don que nous puissions recevoir, la vie éternelle et bonheur éternel. Les aider, être un exemple pour eux, ce n'est pas pour ceux qui sont faibles, c'est pour ceux qui sont forts. C'est pour vous et moi, saints des derniers jours, qui payons le prix pour être des disciples en répondant à nos accusateurs avec le courage chrétien. Je termine en faisant mien le témoignage de Mormon. Voici, je suis disciple de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. J'ai été appelé par lui pour annoncer sa parole parmi son peuple, afin qu'il ait la vie éternelle. Je rends un témoignage spécial de lui, que notre vie peut être éternelle, parce que son amour est éternel. Mon humble prière est que nous puissions partager son amour éternel et inconditionnel avec nos frères et sœurs partout dans le monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
L'une des vérités dominantes du rétablissement est que Dieu vit et qu'il demeure dans les cieux, qu'il est un homme exalté avec un corps de chair et d'eau, et qu'il est hier, aujourd'hui et à jamais, le même Dieu immuable, la source de toute vertu et toute vérité. Adam et Ève furent les premiers de ces enfants mortels sur cette terre. Il a dit de leur venue sur terre, « Et moi, Dieu, je crée l'homme à mon image. Je le crée à l'image de mon Fils unique. Je crée l'homme et la femme. » Cette vérité élève la famille humaine. Les hommes et les femmes sont des créations merveilleuses dotées de qualités divines. Au moment de la création, Dieu a donné à Adam et Ève la capacité divine d'engendrer des enfants à leur image. Nous sommes par conséquent tous à son image. Nous devons toutefois lutter contre les faiblesses humaines et les dangers importants de la condition mortelle. On ne peut échapper à la maladie, la vieillesse et la mort. Les difficultés et les chagrins font partie de la vie. Les penchants, les appétits et les passions réclament d'être satisfaits. Pour toutes ces raisons et pour d'autres, nous avons besoin de l'aide de notre Père Céleste. Une part importante de cette aide est donnée par le service de l'homme à son prochain. Le commandement est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Nous sommes tous frères et sœurs. Chacun est donc notre prochain, bien que nous soyons parfois séparés par la distance, la culture, la religion ou la race. Le prophète Joseph a dit « Un homme rempli de l'amour de Dieu ne se satisfait pas de bénir uniquement sa famille, mais il parcourt le monde entier, soucieux de bénir toute la race humaine. » Le Seigneur en a montré l'exemple. Il a fait ce qui est bon parmi les enfants des hommes. Elle ne repousse aucun de ceux qui viennent à lui, noirs et blancs, esclaves et libres, hommes et femmes. Et il se souvient des païens, et tous sont pareils pour Dieu. Pour pourvoir aux besoins à la façon du Seigneur, nous nous efforçons de prendre soin de nous-mêmes et de faire des sacrifices pour aider les personnes dans le besoin. Les pauvres travaillent pour ce qu'ils reçoivent et s'efforcent aussi d'améliorer la situation des autres. Nous avons ce même schéma depuis le commencement. Le plan d'entraide de l'Église est l'application de ce plan divin, et les membres fidèles de l'Église le suivent. Leurs offrandes fournissent le secours à la veuve, l'aide à l'orphelin et le refuge à celui qui souffre. Il y a quelques années, un haut dignitaire chinois est venu à Salt Lake City, a visité les sites de l'Église et a fait un discours à l'Université Brigham Young. À propos du programme d'entraide de l'Église, il a dit « Si nous nous aimions tous de cette manière, le monde serait un lieu plus paisible. » Son attention a été attirée par le principe du jeûne, du don de la valeur équivalent au repas non pris. À la fin de sa visite de Welfare Square, il a tendu au directeur cette petite enveloppe rouge, une poche rouge. En Chine, on donne une poche rouge en signe d'amour, de bénédiction et pour souhaiter bonne chance. Il a dit, elle ne contient pas grand-chose, mais cela représente l'argent que j'ai économisé en ne prenant pas de petit déjeuner ces deux derniers matins. Je veux donner mon offrande de jeûne au programme d'entraide de l'Église. Le plan d'entraide de l'Église est inspiré de Dieu. Ses principes sont essentiels au salut de l'homme. C'est un étendard pour le service, un témoignage au monde que l'Église de Jésus-Christ a été rétablie. C'est l'aide des cieux de manière pratique. Comme l'a dit le président Monson, les principes d'entraide ne changent pas. Ils ne changeront pas. Ce sont des vérités révélées. Une autre manière essentielle de recevoir l'aide de Dieu est de prier. Il nous est commandé de prier Dieu, notre Père, au nom de Jésus-Christ. Voici l'exhortation. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Notre Père Céleste répond à toutes les prières sincères. Comme l'a dit le prophète du Seigneur, le président Monson, il nous semble parfois ne pas voir le bout du tunnel, ne voir aucune lumière percer les ténèbres de la nuit. Nous nous sentons abandonnés, seuls, le cœur brisé. Si vous vous trouvez dans ce genre de situation, je vous supplie de vous adresser avec foi à notre Père Céleste. Il vous aidera et vous guidera. Il ne vous enlèvera pas toujours vos afflictions, mais il vous réconfortera et vous guidera avec amour dans les tempêtes que vous traversez. Face à certains besoins, nous faisons appel à une forme de prière disponible uniquement sous les mains de personnes autorisées à agir au nom de Dieu. Jésus-Christ est venu guérir les malades, ressusciter les morts et soutenir les âmes désespérées. Le rétablissement de l'Évangile ainsi que le pouvoir et l'autorité de la prêtrise pour continuer cet aspect de l'œuvre de Dieu y contribuent. Si quelqu'un est malade ou profondément troublé, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Des anciens fidèles ont la tâche de faire ce que ferait le Seigneur s'il était présent. Si l'on avait écrit tous les cas de prières exaucées, le monde ne pourrait pas en contenir tous les volumes. Glenn Elrod, autorité générale émérite, et collègue bien-aimé, a rendu le précieux témoignage suivant. Je cite, « J'ai reçu un appel téléphonique m'informant qu'un membre de ma famille, une fillette de 12 ans appelée Janice, était à l'hôpital, grièvement blessée. Sa mère voulait qu'elle reçoive une bénédiction de la prêtrise. Frère Kaoli et moi sommes allés à l'hôpital. En arrivant, nous avons appris les détails de l'accident. Janice avait été heurtée par un bus. Les doubles roues motrices étaient passées sur sa tête et sur son corps. Frère Kaoli et moi sommes entrés dans la chambre de Janice. Elle avait le bassin brisé, une épaule gravement abîmée, de multiples fractures et des blessures à la tête auxquelles on ne pouvait rien faire. Nous avions néanmoins le sentiment que nous devions l'oindre et la bénir. Je l'ai oint d'huile et frère Kaoli a scellé l'onction. De manière forte et résolue, il l'a bénie pour qu'elle retrouve la santé et mène une vie normale. Il l'a bénie pour qu'elle se rétablisse sans conserver de séquelles de ses nombreuses blessures. C'était une belle bénédiction et un moment vraiment magnifique. Janice n'a pas fait un mouvement pendant plus d'un mois. Nous n'avons jamais perdu la foi. Elle avait reçu une bénédiction disant qu'elle se rétablirait et n'aurait pas de handicap durable. Il s'est passé de nombreuses années depuis cette visite à l'hôpital. J'ai parlé récemment à Janice. Elle a maintenant 70 ans. Elle a 3 enfants et 11 petits-enfants. À ce jour, elle n'a aucune séquelle de son accident. Fin de citation. Sa guérison n'est que l'une de nombreuses semblables, mais aucune ne témoigne plus fortement de l'aide de notre Père Céleste à ses enfants, suite à la prière, que celle qui a eu lieu dans une chambre d'hôpital où se trouvait Janice à 12 ans et deux humbles serviteurs du Dieu, il y a environ 58 ans. Nous recevons l'aide suprême de notre Père Céleste par l'intermédiaire de son Fils, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est avec beaucoup d'admiration, mêlée de respect, que je témoigne du Seigneur Jésus-Christ. En le faisant, je me rappelle que nous devons faire très attention en utilisant son nom. Son influence, ses enseignements et la délivrance qu'il nous apporte nous le rendent cher, mais nous devons faire attention de ne pas parler de lui comme s'il était l'ami d'à côté. Il est le premier-né des enfants d'esprit de notre Père. Il a fait tout ce qui lui a été commandé. C'est pourquoi toutes choses le respectent et rendent témoignage de lui. Il a dit aux prophètes anciens ce qu'ils devaient écrire, et il a accompli chacune de leurs paroles. Engendré par Dieu, il est né de la Vierge Marie. Il a vaincu la mort, expié pour les péchés du monde et apporté le salut aux vivants et aux morts. En tant que Seigneur ressuscité, il a mangé du poisson et du miel avec les apôtres et a demandé à des foules dans les deux hémisphères de toucher les plaies de ses mains, de ses pieds et de son côté pour que tous sachent qu'il est le Dieu d'Israël, le Christ vivant. Il déclare à tout le monde, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il est notre législateur et notre juge, le Rédempteur du monde. À sa seconde venue, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Lors de la dernière conférence générale, le président Monson m'a appelée pour être la nouvelle présidente générale des jeunes filles. En présence d'un prophète de Dieu et en recevant cette responsabilité sacrée, je me suis engagée à servir de tout mon cœur, de tout mon pouvoir, de tout mon esprit et de toutes mes forces. Avant cet appel, j'avais une petite assiette sur laquelle était inscrit « Je peux faire des choses difficiles ». Cette petite assiette portant cette simple devise m'a donné du courage. Mais maintenant, si je pouvais changer cette devise, elle dirait « Avec la force du Seigneur, je peux tout faire ». C'est sur cette force que je compte en ce moment où je me tiens à ce pupitre sacré. En avril dernier, 2 jours après la conférence générale, notre présidence nouvellement soutenue a tenu sa première réunion. Nous avons grimpé au sommet du Mount Zion. En regardant la vallée en contrebas, nous avons vu le temple et l'ange Moroni brillant au soleil. Pour chacune de nous, c'était clair. L'objectif de notre présidence était le temple. Et notre responsabilité était claire, elle aussi. Nous devons contribuer à préparer chaque jeune fille à être digne de faire et de garder des alliances sacrées et à recevoir les ordonnances du temple. Le temple est la raison de tout ce que nous faisons dans l'Église. Le temple a été la raison pour laquelle nos ancêtres pionniers sont partis de chez eux où ils étaient bien et sont allés dans l'Ouest. Il a été la raison pour laquelle ils ont souffert de privation et même la mort. Les alliances du temple sont la raison pour laquelle bien que bien des bébés étaient enterrés le long du chemin, ces pionniers ont pu chanter « Venez, venez » sans craindre le devoir. Certains ont tout perdu, mais sont arrivés dans la vallée avec tout, c'est-à-dire les ordonnances du temple, les alliances sacrées et la promesse de la vie éternelle, ensemble, en famille. 2 jours après l'arrivée des saints dans la vallée du lac Salé, Brigham Young et ses compagnons sont montés au sommet du Mount Zion. Là, ils ont déployé une bannière, un foulard jaune fixé à une canne qui symbolisait un drapeau ou un étendard pour les nations. Les saints devaient être la lumière, l'étendard. En avril dernier, au sommet du Mount Zion, nous, 3 femmes, avons aussi déployé une bannière que nous avons faite avec une canne et un châle jaune péruvien. C'était notre drapeau, notre étendard pour les nations, notre bannière appelant à un retour à la vertu. La vertu est l'une des conditions pour entrer dans les saints temples du Seigneur et pour être guidé par l'Esprit. La vertu est une manière de penser et de se conduire fondée sur un haut niveau de moralité. Elle englobe la chasteté et la pureté morale. La vertu commence dans le cœur et dans l'esprit. Elle est nourrie au foyer. Elle résulte de l'accumulation de milliers de petites décisions et actions. La vertu est un mot que nous n'entendons pas souvent dans la société d'aujourd'hui. Mais la racine latine du mot virtus signifie force. Les femmes et les hommes vertueux possèdent une dignité tranquille et une force intérieure. Ils sont confiants parce qu'ils sont dignes de recevoir le Saint-Esprit et d'être guidés par lui. Le président Monson a conseillé, si vos prétendus amis vous pressent de faire quoi que ce soit que vous savez être mal, vous soyez celui qui défend le bien, même si vous êtes le seul à le défendre. Ayez le courage moral d'être une lumière pour que les autres suivront. Nulle amitié n'est plus précieuse qu'une conscience pure et qu'une pureté morale. Et quel magnifique sentiment que de savoir que vous êtes à la place qui vous est désignée. Se pourrait-il que lentement désensibilisés, nous ayons été amenés à penser que les principes moralement élevés sont démodés, ne sont plus pertinents ou importants dans notre société? C'est frère Hels. Comme frère Hels vient de nous le rappeler, Léonti, dans le livre de Mormon, avait une place de choix sur le haut de la montagne. Lui-même et ceux qu'il dirigeait étaient décidés dans leur esprit avec une ferme résolution à ne pas descendre de la montagne. Le fourbe Amalika dut s'y prendre à 4 reprises, chacune d'elles plus hardie que la précédente, pour convaincre Léonti de descendre au pied de la montagne. Alors, ayant cru aux fausses promesses d'Amalika, Léonti fut empoisonné peu à peu jusqu'à ce qu'il en meure. Pas simplement empoisonné, mais peu à peu. Se pourrait-il que cela puisse arriver aujourd'hui? Se pourrait-il que nous commencions par tolérer, puis accepter et finalement embrasser le vice qui nous entoure? Se pourrait-il que nous ayons été trompés par de faux exemples et par des messages médiatiques persuasifs qui nous entraînent à oublier notre identité divine? Sommes-nous aussi en train d'être empoisonnés peu à peu? Qu'est-ce qui serait plus trompeur de vous inciter, jeunes de cette noble génération, à ne rien faire ou à être occupé à toujours envoyer des textos, mais sans jamais parvenir à la connaissance des vérités contenues dans le livre écrit pour vous, écrit pour votre époque par des prophètes de Dieu, le livre de Mormon? Que pourrait-il y avoir de plus trompeur que d'inciter les femmes, jeunes et moins jeunes, vous et moi, à nous occuper à tel point de nous-mêmes, de notre apparence, de nos vêtements, de la forme et de la taille de notre corps, que nous perdons de vue notre identité divine et notre capacité de changer le monde grâce à notre influence vertueuse? Que pourrait-il y avoir de plus trompeur que d'inciter les hommes, jeunes et moins jeunes, détenant la sainte prêtrise de Dieu, à regarder de la pornographie séductrice et ainsi se concentrer sur la chair au lieu de la foi, être consommateur du vice plutôt que gardien de la vertu? Le livre de Mormon raconte l'histoire de 2000 jeunes héros dont la vertu et la pureté leur ont donné la force de défendre les alliances de leurs parents et la foi de leur famille. Leur vertu et leur engagement à être fidèles en tout temps a changé le monde. Je crois vraiment qu'une jeune fille ou un jeune homme vertueux, conduit par l'esprit, peut changer le monde. Mais pour y parvenir, nous devons retourner à la vertu. Nous devons nous astreindre à un entraînement strict. Comme le marathonien Juma Ikanga l'a dit après avoir gagné le marathon de New York, la volonté de gagner n'est rien sans la volonté de se préparer. Le moment est venu de se préparer en pratiquant davantage l'autodiscipline. Le moment est venu de devenir plus apte pour le royaume. Le moment est venu de déterminer notre ligne de conduite et de nous concentrer sur le but à atteindre. Le retour à la vertu doit commencer individuellement dans notre cœur et dans notre foyer. Que pouvons-nous faire chacun pour entamer notre retour à la vertu? Le parcours et le programme d'entraînement sera personnel pour chacun d'entre nous. J'ai tiré mon programme d'entraînement personnel d'instruction qui se trouve dans les Écritures. Que la vertu orne sans cesse tes pensées. Attache-toi aux alliances que tu as faites. Tiens-toi en des lieux saints. Tu délaisseras les choses de ce monde. Crois que tu dois te repentir. Souviens-toi toujours de Dieu et garde ses commandements. Et nous recherchons tout ce qui est vertueux ou aimable, tout ce qui mérite l'approbation ou est digne de louange. Maintenant, plus que jamais auparavant, il est temps de répondre à l'appel de Moroni. Réveille-toi et lève-toi, de nous saisir de tout bon don et de ne pas toucher au mauvais don, ni à ce qui est impur. J'ai récemment assisté à la bénédiction de l'une de nos dernières petites filles. C'était pour moi une vision sainte de voir mon mari, nos fils et d'autres membres de notre famille entourer ce nouveau-né. Elle était si élégante, toute habillée de blanc. Et ça n'a dérangé personne qu'elle ait reçu les prénoms de ses grands-mères. Mais la chose qui m'a le plus touchée a été la bénédiction donnée par son père, notre fils Zach. Il a béni la petite Annabelle Hélène pour qu'elle comprenne son identité de fille de Dieu, pour qu'elle suive l'exemple de sa mère, de ses grands-mères et de sa sœur, et qu'elle trouve beaucoup de joie à mener une vie vertueuse, à se préparer à faire et à respecter les alliances sacrées du Temple. À ce moment sacré, j'ai prié afin que toutes les jeunes filles puissent être entourées, fortifiées et protégées par le pouvoir vertueux de la prêtrise, non seulement au moment de leur naissance et de leur bénédiction, mais tout au long de leur vie. Lors de l'assemblée solennelle à la dernière conférence, quand le président Urschdorf nous a demandé de soutenir notre nouveau prophète et la nouvelle présidence, j'ai regardé tous les frères de la prêtrise se lever. J'ai senti leur force et leur pouvoir dans la prêtrise. Vous êtes les gardiens de la vertu. Puis, j'ai été bouleversée quand il a dit que les jeunes filles se lèvent. De ma place, je vous ai toutes vues vous lever et vous tenir debout ensemble. Aujourd'hui, il ne peut y avoir de force plus puissante pour la vertu dans le monde. Vous ne devez jamais sous-estimer le pouvoir de votre influence vertueuse. Je témoigne que le retour à la vertu est possible grâce à l'exemple du Sauveur et au pouvoir infini de son grand sacrifice expiatoire. Je témoigne que nous serons non seulement rendus capables et fortifiés pour faire les choses difficiles, mais aussi pour faire toutes choses. Le temps est venu que chacun de nous se lève et déploie une bannière au monde, appelant au retour à la vertu. Puissions-nous vivre de telle façon que nous puissions être des instruments pour préparer la terre à sa seconde venue, afin que lorsqu'il apparaîtra, nous soyons semblables à lui, purifiés comme il est pur. Au nom de Jésus-Christ, amen.
My brothers and sisters,
frères et sœurs, le 19 juillet de cette année, les fils des pionniers d'Utah ont érigé dans le parc This is the Place à Salt Lake City une statue de Joseph Smith, le prophète, et de son successeur, Brigham Young. Cette statue, appelée Regard vers l'Ouest, représente ces deux grands prophètes avec une carte des territoires de l'Ouest. Beaucoup de gens, dont les saints des derniers jours, oublient que Joseph Smith savait très bien que l'Église finirait par partir s'installer dans le Grand Ouest américain. En août 1842, il a prophétisé que les saints continueraient à souffrir beaucoup d'afflictions et seraient chassés dans les montagnes rocheuses, que beaucoup apostasieraient, que d'autres seraient mis à mort par leurs persécuteurs, ou mouraient de froid ou de maladie, et que certains vivraient pour aller aider à fonder des colonies, à construire des villes et voir les saints devenir un peu puissants au milieu des montagnes rocheuses. Même les personnes les plus proches de Joseph, en ces premiers temps, ne comprenaient pas pleinement les épreuves que les saints des derniers jours allaient subir pendant le développement de l'Église, partie d'un petit groupe aux années des années 1800. Mais le prophète Joseph savait qu'aucun ennemi présent à l'époque ou à venir n'aurait suffisamment de pouvoir pour contrarier ou arrêter les desseins de Dieu. Nous connaissons toutes les paroles prophétiques suivantes. L'étendard de la vérité a été dressé. Aucune main impie ne peut empêcher l'œuvre de progresser. Les persécutions peuvent faire rage. Les émeutiers peuvent s'attrouper. Les armées s'assembler. La calomnie diffamer. Mais la vérité de Dieu ira de l'avant hardiment, noblement et indépendante, jusqu'à ce qu'elle ait pénétré tout continent, visité tous les climats, balayé tous les pays et résonné à toutes les oreilles, jusqu'à ce que les desseins de Dieu soient accomplis et que le grand Jéhovah dise que l'œuvre est accomplie. Près de 18 décennies ont passé depuis l'organisation de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours en 1830. Nous avons eu 178 ans pour observer l'accomplissement de la prophétie et voir la vérité de Dieu aller de l'avant, hardiment, noblement et indépendante. L'Église a commencé avec seulement quelques membres. Malgré l'opposition intense, 597 missionnaires ont été appelés dans les années 1830, et plus de 15 000 convertis sont faits baptiser dans l'Église. Les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne ont été ouverts à la prédication de l'Évangile. Il y a eu de nombreux convertis durant les années 1840, alors que les persécutions continuaient de faire rage contre l'Église, particulièrement contre le prophète Joseph. Au milieu de ces problèmes, et malgré les grandes difficultés de déplacement, l'Évangile rétabli de Jésus-Christ a continué de se répandre sur la terre. Grâce à l'appel de 1450 missionnaires durant les années 1840. Et l'Église s'est accrue de plus de 48 000 membres. Le 27 juin 1844, la persécution contre Joseph Smith a atteint son point culminant quand son frère et lui ont été tués par des émeutiers la prison de Carthage. Peu après ce martyr et en accomplissement de la vision de Joseph, Brigham Young et l'Église ont commencé à se préparer à partir dans les montagnes rocheuses. Les difficultés, les afflictions, la mort et l'apostasie étaient omniprésentes. Pourtant, l'œuvre allait de l'avant. Dans les années 1850, 705 missionnaires ont été appelés à servir, notamment en Scandinavie, en France, en Italie, en Suisse et à Hawaï. L'œuvre missionnaire a commencé dans des endroits aussi divers que l'Inde, Hong Kong, la Thaïlande, la Birmanie, l'Afrique du Sud et les Antilles. Beaucoup des convertis fidèles venus de Scandinavie et de Grande-Bretagne dans les années 1850 ont souffert et sont morts sur terre et sur mer, pendant leur voyage pour rejoindre les saints, ici dans les montagnes rocheuses. En 1975, 7 missionnaires ont été appelés à partir au Mexique. Il y a eu beaucoup de convertis malgré la révolution et d'autres difficultés. Il y a eu juste 4 ans, en 2004, l'Église a atteint le million de membres au Mexique. La foi des saints a été éprouvée à chacun de leurs pas, tandis que Brigham Young le dirigeait de la construction de temples, établissement de plus de 350 colonies dans l'Ouest. À la mort de Brigham Young, en 1977, le nombre de membres de l'Église dans le monde dépassait 115 000. Malgré toutes les persécutions, la vérité de Dieu allait de l'avant, hardiment et noblement. Le temps ne me permet pas de détailler la croissance de l'Église dans les décennies suivantes. Mais il faut noter les changements intervenus entre 1890 à 1940, une période de 40 ans, alors que l'Église et sa doctrine étaient toujours attaquées. Reed Smoot a été élu au Congrès américain, mais a dû se battre pour avoir son siège. Beaucoup de choses ont été dites sur l'Église et ses enseignements, pour la plupart blessantes, et dirigées contre Joseph Smith, président de l'Église, et contre d'autres dirigeants de l'Église. Néanmoins, quelques articles de journaux ont commencé à dire que les membres de l'Église participaient à la vie civique et étaient des gens bien. Le 3 septembre 1925, Herbert G. Grant, président de l'Église, annonçait que l'Église allait envoyer des missionnaires en Amérique du Sud. Suivant le schéma du Seigneur pour porter l'Évangile établi à tous les pays, mon grand-père paternel, Melvin J. Ballard, du Collège des Douze Apôtres, faisait partie des frères qui ont été envoyés en Amérique du Sud pour la consacrer à la prédication de l'Évangile. Le matin de Noël 1925, en Argentine, frère Ballard a consacré les pays d'Amérique du Sud et a commencé l'œuvre missionnaire. Avant d'en partir, au mois de juillet suivant, il a prophétisé. L'œuvre du Seigneur va commencer par progresser lentement ici, tout comme un chêne pousse lentement à partir d'un gland. Elle ne va pas fleurir en un jour comme le font les tournesols, qui poussent rapidement puis meurent. Mais des milliers de personnes se joindront à l'Église ici. Elle sera divisée en plusieurs missions. Et ce sera l'un des endroits les plus forts de l'Église. L'œuvre ici ne fera que croître. Tous les gens qui connaissent la croissance de l'Église en Amérique du Sud sont au courant de l'accomplissement de cette prophétie. Aujourd'hui, le Brésil à lui seul compte plus d'un million de membres. Entre 1930 et 1970, une période de 40 ans, plus de 106 000 missionnaires ont été appelés à servir. Le nombre de membres de l'Église a été multiplié par 4, passant à plus de 2,8 millions. Il y a eu plus d'un million de nouveaux membres pendant les années 1960. Et en 1970, les missionnaires servaient dans 43 pays et 9 territoires. Durant ces 40 ans, en Amérique du Sud, le Chili, le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay, l'Équateur, la Colombie, le Pérou, le Venezuela ont été ouverts à l'œuvre missionnaire. En Amérique centrale, les serviteurs du Seigneur ont ouvert le Panama, le Costa Rica, le Guatemala, le Salvador, le Honduras et le Nicaragua. En Asie, de nouvelles grandes actions ont commencé à porter leurs fruits en Corée, à Taïwan, à Singapour, aux Philippines. Rien de cela n'était facile. Des difficultés, des obstacles, des persécutions ont accompagné toutes les tentatives de porter la vérité de Dieu dans les continents, les pays, pour qu'elle puisse résonner à toutes les oreilles. Néanmoins, nous avons continué d'avancer avec foi. Les difficultés, les obstacles que nous avons rencontrés ont été surmontés. Spencer W. Kimball, président de l'Église à l'époque, a demandé aux membres de l'Église d'allonger la foulée pour répandre l'Évangile de vérité. Il a demandé à tous les pieux du monde d'accroître le nombre de missionnaires. Et il a conduit l'Église à utiliser les médias pour transmettre notre message à des centaines de millions de gens sur toute la Terre. Durant les 12 années de sa présidence, près de 200 000 membres ont fait une mission à plein temps. La population mondiale de l'Église a presque doublé et le nombre de pieux a presque triplé. L'œuvre missionnaire est organisée ou réorganisée dans de nombreux pays. Et le miracle de la conversion s'est produit malgré toutes les tentatives de l'adversaire pour contrarier l'œuvre du Seigneur ou pour décourager ses ouvriers. Un peu plus de deux décennies se sont écoulées depuis la fin du ministère du président Kimball de la condition mortelle. Durant cette période, nous avons été reconnus de la communauté mondiale des croyants de manière importante et sans précédent. Ce n'est probablement pas par hasard que notre peuple, notre histoire et notre doctrine ont aussi subi des attaques idéologiques sans précédent dans les médias. Et pourtant, l'Église continue de grandir. La population de l'Église a de nouveau plus que doublé, passant de 5,9 millions en 1985 à plus de 13 millions aujourd'hui. Et l'année dernière, le millionième missionnaire de notre dispensation a été appelé à servir. Mon objectif, mes frères et sœurs, en faisant ce brève exposé sur la vision prophétique de Joseph concernant la destinée de l'Église et sur son accomplissement littéral au cours de décennies, est de nous rappeler cette vérité simple. On ne peut faire échouer les œuvres, les desseins et les intentions de Dieu, ni les réduire à néant. Car Dieu ne marche pas dans les sentiers tortueux. Il ne dévie pas de ce qu'il a dit. C'est pourquoi ses sentiers sont droits et son chemin est une même ronde éternelle. Souviens-toi, ce n'est pas l'œuvre de Dieu qui est contrecarrée, mais celle des hommes. Dieu a parlé par l'intermédiaire de son prophète et a annoncé au monde que l'étendard de la vérité a été dressé et qu'aucune main impie ne peut empêcher l'œuvre de progresser. C'est une vérité indéniable, indiscutable. Nous l'avons constaté décennie après décennie, de l'époque de Joseph Smith, le prophète, à celle du président Monson. Les persécutions ont fait rage, les calomnies, les mensonges et les informations ont essayé de diffamer l'Église. Mais dans chaque décennie, depuis le moment du rétablissement, la vérité de Dieu est allée de l'avant, hardiment, noblement et indépendante. La petite Église qui a commencé en 1930, avec seulement une poignée de membres, compte aujourd'hui plus de 13 millions de saints des derniers jours dans de nombreux pays du monde. Et nous sommes en bonne voie pour pénétrer tout continent et visiter tous les climats, balayer tous les pays et résonner à toutes les oreilles. C'est l'œuvre de Dieu et elle n'échouera pas. Mais il y a encore beaucoup à faire avant que le grand Jéhovah puisse annoncer que l'œuvre est accomplie. Nous louons et honorons les saints fidèles qui nous ont amenés à ce point de reconnaissance publique. Mais ne pouvons pas nous permettre d'être satisfaits, mes frères et sœurs. Nous sommes tous nécessaires, mes frères et sœurs, pour terminer l'œuvre qui a été commencée par les saints pionniers il y a plus de 175 ans, puis continuée dans les décennies suivantes par les saints fidèles de toutes les générations. Nous devons croire comme ils ont cru. Nous devons travailler comme ils ont travaillé. Nous devons servir comme ils ont servi. Et nous devons vaincre l'adversité comme ils l'ont vaincu. Bien sûr, nos difficultés d'aujourd'hui sont différentes, mais elles ne sont pas moins grandes. Au lieu des émeutiers en colère, nous affrontons des gens qui essaient constamment de nous calomnier. Au lieu des rigueurs extrêmes du climat, nous affrontons l'alcool, la drogue, la pornographie et toutes sortes d'obscénités, de corruption, de cupidité, de malhonnêteté et d'apathie spirituelle. Au lieu de voir des familles déracinées et arrachées de leurs maisons, nous voyons la situation de la famille, notamment l'institution divine du mariage, attaquée par des groupes et des personnes qui cherchent à supprimer le rôle important et divin de la famille dans la société. Ce n'est pas pour dire que nos difficultés actuelles sont plus grandes que celles des saints qui nous ont précédés. Elles sont simplement différentes. Le Seigneur ne nous demande pas de charger une charrette à bras. Il nous demande de fortifier notre foi. Il ne nous demande pas de traverser un continent à pied. Il nous demande de traverser la rue pour aller voir notre voisin. Il ne nous demande pas de donner tous nos biens pour construire un temple. Il nous demande de donner de nos moyens et de notre temps, malgré les pressions de la vie moderne, pour continuer de construire les temples et pour aller régulièrement dans ceux qui sont construits. Il ne nous demande pas de mourir en martyr. Il nous demande de vivre en disciple. Nous vivons une époque très importante, mes frères et sœurs. Et c'est à nous de décider, mes frères et sœurs, si nous allons perpétuer la grande tradition de dévouement qui a été la marque des générations de saints des derniers jours précédents. Ce n'est pas le moment de faiblir spirituellement. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être droits que superficiellement. Notre témoignage doit être profond, nos racines spirituelles fermement ancrées dans le rocher de la révélation. Et nous devons continuer de faire avancer l'œuvre, être un peuple d'alliance, consacré, guidé par la foi à chaque pas, jusqu'à ce que les desseins de Dieu soient accomplis et que le grand Jéhovah dise « L'œuvre est accomplie ». Je prie pour qu'il en soit ainsi pour nous. C'est là mon humble prière, au nom de Jésus-Christ. Amen.
This has been a glorious session of conference.
Ça a été une merveilleuse session de conférence. Nous remercions le chœur du tabernacle de la belle musique qu'il a interprétée ce matin et les personnes qui nous ont parlé. Je vais maintenant avoir le plaisir de vous adresser la parole. Après mon discours, le chœur terminera la session en chantant « Le jour paraît, chassant la nuit ». Daniel L. Johnson, des 70, fera ensuite la prière de clôture. La dernière session de cette conférence commencera à 14 heures cet après-midi. Mes chers frères et sœurs, c'est en toute humilité que je me tiens ce matin devant vous. Je demande votre foi et vos prières en ma faveur, pendant que je parle des choses qui m'ont occupé l'esprit et que je me suis senti poussé à vous dire. Je commence en mentionnant l'un des aspects les plus inévitables de notre vie ici-bas, c'est-à-dire le changement. Nous avons tous entendu un moment ou un autre l'une ou l'autre forme de l'adage bien connu. Rien n'est aussi constant que le changement. Notre vie durant, nous devons affronter le changement. Certains sont les bienvenus, d'autres pas. Il y a dans notre vie des changements qui sont soudains, comme le décès inattendu d'un proche, une maladie imprévue, la perte d'un bien que nous chérissons. Mais la plupart des changements se produisent de manière subtile et lente. Cette conférence marque la 45e année depuis que j'étais appelé au Collège des 12 apôtres. À l'époque, Benjamin des 12, j'étais plein d'admiration devant 14 hommes exceptionnels qui étaient mes aînés dans les 12 et la première présidence. Un par un, ces hommes sont retournés à leur foyer céleste. Quand le président Inclee est décédé il y a 8 mois, je me suis rendu compte que j'étais devenu le doyen des apôtres. Les changements qui se sont produits en 45 ans, qui étaient progressifs, semblent maintenant monumentaux. La semaine qui vient, Sœur Manson et moi fêterons notre 60e anniversaire de mariage. Quand je repense à nos débuts, je me rends compte à quel point notre vie a changé depuis lors. Nos parents aimés, qui étaient à nos côtés quand nous avons débuté notre voyage ensemble, sont morts. Nos trois enfants, qui ont rempli si complètement notre vie pendant bien des années, sont devenus adultes et ont leur propre famille. La plupart de nos petits-enfants sont adultes, et nous avons maintenant quatre arrière-petits-enfants. Jour par jour, minute par minute, seconde par seconde, nous sommes allés d'où nous étions, jusque là où nous sommes maintenant. Bien entendu, notre vie à tous passe par des modifications et des changements semblables. La différence entre les changements de ma vie et les changements de la vôtre n'est que dans les détails. Le temps ne s'arrête jamais. Il doit constamment aller de l'avant. Et c'est là que viennent les changements. C'est la seule et unique chance que nous ayons dans cette vie-ci. Plus longtemps nous vivons, plus nous nous rendons compte qu'elle est brève. Les occasions viennent, et puis c'est fini. Je crois que parmi les plus grandes leçons que nous devons apprendre pendant ce bref séjour sur la Terre, il y a celle qui nous aide à distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Je vous supplie de ne pas laisser les choses les plus importantes passer à côté de vous. Pendant que vous faites vos plans pour cet avenir illusoire et inexistant, où vous aurez le temps de faire tout ce que vous voulez faire. Au lieu de cela, trouvez de la joie pendant le voyage, maintenant. Je suis ce que ma femme Frances appelle un drogué du spectacle. J'adore ce qui est comédie musicale, et l'une de mes préférées a été écrite par le compositeur américain Meredith Willson et est intitulée The Music Man. Le professeur Harold Hill, l'un des personnages principaux de la comédie, lance un avertissement que je vous transmets. Il dit « Empilez suffisamment de demain et vous vous apercevrez que vous avez collectionné beaucoup d'hier vide. » Mes frères et sœurs, il n'y a pas de demain à se rappeler si nous ne faisons pas quelque chose aujourd'hui. Je vous ai déjà donné un exemple de cette philosophie. Je crois qu'il vaut d'être répété. Il y a bien des années, Arthur Gordon a écrit dans un magazine national, je cite, « Quand j'avais environ 13 ans, et que mon frère en avait 10, papa a promis de nous emmener au cirque. Mais au moment du déjeuner, il y a eu un coup de téléphone. Quelque chose d'urgent réclamait son attention en ville. » Nous nous sommes préparés à une déception. Alors, nous l'avons entendu dire au téléphone, « Non, je n'irai pas. Cela devra attendre. » Quand il est revenu à la table, un moment a souri. « Le cirque revient toujours, tu sais, » a-t-elle dit. « Je sais, » a dit papa, « mais l'enfance, pas. » Fin de citation. Si vous avez des enfants qui sont adultes, ayant quitté le foyer, selon toute probabilité, vous aurez de temps en temps senti un pincement de cœur de les avoir partis et la prise de conscience que vous n'avez pas apprécié cette période de la vie autant que vous l'auriez dû. Naturellement, on ne peut pas faire marche arrière, on peut qu'aller de l'avant. Plutôt que de nous attarder sur le passé, nous devrions tirer le meilleur d'aujourd'hui, du temps présent, faisant tout ce que nous pouvons pour créer des souvenirs agréables pour le futur. Si vous êtes toujours en train d'élever des enfants, rendez-vous compte que les marques de doigts minuscules qui apparaissent que sur presque chaque surface nouvellement nettoyée, les jouets dispersés dans la maison, les piles et les piles de linge à traiter ne disparaîtront que trop tôt. Et qu'à votre grande surprise, ils vous manqueront profondément. Les tensions se présentent dans notre vie, quelles que soient nos circonstances. Nous devons les traiter du mieux que nous pouvons. Mais nous ne devons pas les laisser se mettre sur le chemin de ce qui est le plus important. Et ce qui est le plus important implique presque toujours ceux qui nous entourent. Souvent, nous supposons qu'ils doivent savoir combien nous les aimons, mais nous ne devons jamais supposer. Nous devons leur faire savoir. William Shakespeare a écrit « Ceux qui ne montrent pas leur amour n'aiment pas. » Nous ne regretterons jamais les mots gentils que nous aurons prononcés ou l'affection que nous aurons montrée. Nous aurons plutôt des regrets si nous omettons de telles choses dans nos rapports avec ceux qui ont le plus d'importance pour nous. Envoyez un petit mot à l'ami que vous avez négligé. Serrez votre enfant dans votre bras. Serrez vos parents dans vos bras. Dites plus souvent « Je t'aime ». Exprimez toujours vos remerciements. Ne laissez jamais un problème à résoudre devenir plus important qu'une personne à aimer. Les amis déménagent. Les enfants deviennent adultes. Les proches meurent. Il est si facile de considérer la présence des autres comme naturelle jusqu'au jour où ils quittent notre vie et que nous restons avec le « et si ?» ou « si seulement ?» L'écrivain Harriet Beecher Stowe a dit « C'est pour les mots qui auraient dû être dits et les actes qui auraient dû être faits que l'on verse les larmes les plus amères sur les tombes. » Dans les années 60, pendant la guerre du Vietnam, J.S., aviateur membre de l'Église, a été abattu au-dessus du Vietnam du Nord. Pendant 2 ans, sa famille a totalement ignoré s'il était mort ou vivant. Ses ravisseurs à Hanoï lui ont finalement permis d'écrire chez lui, mais ont limité son message à moins de 25 mots. Que dirions-nous, vous et moi, à notre famille, si nous étions dans la même situation, ne l'ayant plus vue pendant plus de 2 ans et ne sachant pas si nous la reverrons jamais, voulant donner à sa famille quelque chose qu'elle pourrait reconnaître comme venant de lui et voulant aussi lui donner un conseil utile, frère S. a écrit, et je cite, « Ces choses sont importantes. » Le mariage au temple, la mission, l'université. Allez de l'avant, fixez-vous des objectifs, écrivez de l'histoire, faites des photos 2 fois par an. Fin de citation. Jouissons de la vie en la vivant. Trouvons de la joie pendant le voyage et disons notre amour à nos amis et à notre famille. Un jour, chacun de nous tombera à court de lendemain. Dans le livre de Jean, dans le Nouveau Testament, chapitre 13, verset 34, le Sauveur nous exhorte. Je cite, « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Fin de citation. Certains d'entre vous connaissent peut-être le drame classique de Thornton Wilder, notre ville. Je sais que les sœurs le connaîtront. Si c'est le cas, vous vous rappellerez la ville de Grover's Corners, où l'histoire a lieu. Dans la pièce, Emily Webb meurt pendant un accouchement. Et l'auteur nous décrit la douleur solitaire de son jeune mari George, qui reste avec leur fils de 4 ans. Emily ne souhaite pas reposer en paix. Elle veut revivre les joies de sa vie à nouveau. On lui accorde la bénédiction de revenir sur la terre et de revivre son 12e anniversaire. Au début, c'est passionnant de redevenir jeune, mais l'excitation se dissipe rapidement. La journée ne lui apporte aucune joie maintenant qu'Emily sait ce que l'avenir lui réserve. C'est pour elle une douleur insupportable que de se rendre compte à quel point elle a été inconsciente du sens et de la beauté de la vie, tandis qu'elle était vivante. Avant de retourner à son lieu de repos, Emily déplore, « Arrive-t-il jamais aux êtres humains de se rendre compte de la vie tandis qu'ils la vivent chaque minute ?» Chaque minute. Fin de citation. Notre prise de conscience de ce qui est le plus important dans la vie va de pair avec la gratitude pour nos bénédictions. Un auteur bien connu a dit « L'abondance et le manque d'abondance existent simultanément dans notre vie en tant que réalité parallèle. Nous choisissons toujours délibérément le jardin secret que nous allons cultiver. Quand nous décidons de ne pas nous concentrer sur ce qui manque dans notre vie, mais que nous sommes reconnaissants de l'abondance qui est là, l'amour, la santé, la famille, les amis, le travail, les joies de la nature et les activités personnelles qui nous apportent du bonheur, le désert de l'illusion disparaît et nous connaissons le paradis sur terre. Dans les Doctrines et Alliances, section 88, verset 33, on nous dit « À quoi sert-il à un homme qu'un don lui soit accordé s'il ne reçoit pas le don ?» Voici, il ne se réjouit pas de ce qui lui est donné, ni ne se réjouit de celui qui fait le don. Horace, le philosophe romain antique, nous exhorte, « Quelle que soit l'heure que Dieu t'ait accordée, prends-la d'une main reconnaissante et ne repousse pas tes joies d'année en année, de sorte que dans quelque endroit que tu aies été, tu puisses dire que tu as vécu heureux. » Il y a bien des années, j'ai été touché par l'histoire de Borghildal. Elle est née en 1890 au Minnesota de parents norvégiens et dès ses premières années, a souffert d'une très mauvaise vue. Elle avait l'immense désir de participer à la vie quotidienne en dépit de son handicap. Et à force de volonté, a réussi presque tout ce qu'elle a entrepris. Contre le conseil des éducateurs, qui estimaient que son handicap était trop grand, elle est allée à l'université et a obtenu une licence S-lettres de l'Université du Minnesota. Plus tard, elle a étudié à l'Université de Columbia et l'Université d'Oslo. Elle est par la suite devenue la directrice de 8 écoles dans l'ouest du Minnesota et au Dakota du Nord. Elle a écrit ce qui suit dans l'un des 17 livres dont elle a été l'auteur. Je n'avais qu'un œil. Il était tellement couvert de cicatrices denses que je ne pouvais voir que par une petite ouverture dans l'œil gauche. Je ne pouvais voir un livre qu'en le tenant tout près de mon visage et en forçant mon œil autant que je pouvais vers la gauche. Fin de citation. Miraculeusement, en 1943, elle avait alors plus de 50 ans, un procédé révolutionnaire a été mis au point qui lui a finalement rendu une grande partie de la vue dont elle avait été privée si longtemps. Un monde nouveau et passionnant s'est ouvert à elle. Elle a trouvé un grand plaisir dans les petites choses que la plupart d'entre nous considèrent comme sans intérêt, comme observer un oiseau en vol, remarquer la lumière se refléter dans les bulles de son lave-vaisselle, ou observer chaque nuit les phases de la lune. Elle termine l'un de ses livres comme ceci. Cher Père Céleste, je te remercie. Je te remercie. Borghildal, aussi bien avant qu'après que sa vue lui soit rendue, était pleine de gratitude pour ses bénédictions. En 1982, 2 ans avant sa mort, à l'âge de 92 ans, son dernier livre a été publié. Son titre, « Heureuse toute ma vie ». Son attitude de reconnaissance lui a permis d'apprécier ses bénédictions et de mener une vie pleine et riche en dépit de ses problèmes. Dans le 1er Thessaloniciens, dans le Nouveau Testament, chapitre 5, verset 18, l'apôtre Paul nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Rappelez-vous avec moi l'histoire des 10 lépreux. Comme Jésus entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que c'est étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Le Seigneur a dit dans une révélation donnée par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, « Il n'y a rien qui offense autant Dieu ou allume autant sa colère que ceux qui ne confessent pas sa main en toute chose et n'obéissent pas à ses commandements. » Puissions-nous être trouvés parmi ceux qui remercient le Père Céleste. Si l'ingratitude est comptée parmi les péchés graves, la gratitude, elle, a sa place parmi les vertus les plus nobles. En dépit des changements qui se produisent dans notre vie et avec la gratitude dans notre cœur, puissions-nous remplir, autant que nous le pouvons, nos jours de choses qui importent le plus. Puissions-nous aimer ceux qui nous sont chers et leur exprimer notre amour par la parole et par les actes. Pour terminer, je prie que nous éprouvions tous de la reconnaissance pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Son évangile glorieux donne la réponse aux plus grandes questions de la vie. D'où ne venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Où va mon esprit quand je meurs? Il nous a enseigné comment prier. Il nous a enseigné comment servir. Il nous a enseigné comment vivre. Sa vie est un legs d'amour. Les malades, il les a guéris. Les opprimés, il les a relevés. Les pécheurs, il les a sauvés. Le moment est venu où il s'est retrouvé seul. Certains apôtres ont douté. L'un d'eux l'a trahi. Les Romains, les soldats lui ont percé le côté. Les émeutiers furieux lui ont ôté la vie. On peut encore entendre résonner ces paroles compatissantes sur la colline du Golgotha. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Précédemment, percevant peut-être le point culminant de sa mission terrestre, il s'était lamenté. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Pas de place dans l'hôtellerie. N'était pas un signe de rejet unique. Ce n'était que le premier. Pourtant, il nous invite, vous et moi, à le recevoir. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Fin de citation. Qui était cet homme de douleur et habitué à la souffrance? Qui est le roi de gloire, ce Seigneur des armées? Il est notre maître, il est notre sauveur. Il est le Fils de Dieu. Il est l'auteur de notre salut. Il nous fait signe. Suivez-moi. Il commande. Va, et toi, fais de même. Il supplie. Gardez mes commandements. Suivons-le. Imitons son exemple. Obéissons à sa parole. Ce faisant, nous lui faisons le don divin de la gratitude. Frères et sœurs, ma prière sincère est que nous puissions nous adapter au changement de notre vie, que nous puissions nous rendre compte de ce qui est le plus important, que nous puissions toujours exprimer notre gratitude et trouver ainsi de la joie pendant le voyage. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Our Heavenly Father,
notre Père Céleste, nous sommes si reconnaissants du privilège qui était le nôtre d'être enseignés par ton prophète et par ceux qui nous ont instruits, ceci par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons ressenti ton esprit. Maintenant, bénis-nous pour que nous ayons de l'avant, pour faire ce que nous avons reçu et ce que nous avons ressenti, au nom de Jésus-Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 178th Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
French.